Bonjour, vous écoutez En Route, un podcast de la STIB. En Route, c'est un podcast qui va vous faire découvrir la STIB autrement. La STIB, c'est la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. Plus de 9500 personnes y travaillent tous les jours, et ce podcast va mettre en avant ces personnes, via leur métier, mais bien sûr et surtout, via leur personnalité.
Dans ce nouvel épisode de En Route, nous accueillons aujourd'hui Christian de Streiker. Christian est manager accessibility à la STIB. Alors les enjeux de l'accessibilité sur le réseau de la STIB, eh bien c'est la spécialité de Christian et il va nous en parler dans ce podcast.
Première question, Christian. Comment vas-tu ?
Je vais bien, je suis ravi de me retrouver ce matin pour faire une petite discussion autour de cette thématique qui est passionnante.
Moi j'avais une première question. Est-ce que une personne à mobilité réduite aurait facile de venir jusque dans cette pièce, on enregistre ici à la STIB?
Alors ça dépend du type de mobilité réduite qu'elle a. Si on parle des personnes en fauteuil roulant, pas mal de choses sont adaptées pour arriver jusque-là. Mais il y a souvent un maillon faible dans l'accessibilité. Le maillon faible, en l'occurrence, ne sera pas la circulation dans le bâtiment, ce sera la porte d'entrée de l'entreprise qui est très très lourde si on est en fauteuil roulant. La personne va devoir avoir recours à quelqu'un qui va lui ouvrir la porte. Donc, à partir du moment où on lui aura ouvert la porte, et c'est intéressant parce que ça pourrait être au sens figuré, à partir du moment où on lui aura ouvert la porte, elle pourra circuler dans le bâtiment relativement aisément. Si par contre on parle de personnes à mobilité réduite avec une déficience sensorielle, par exemple, il va falloir qu'elle apprenne à découvrir le bâtiment, si on parle d'une personne aveugle, pour s'orienter correctement dedans, ou si on parle d'une personne sourde, forcément là il y aura moins de soucis de déplacement. Par contre, les discussions seront moins simples parce qu'on n'a pas d'équipement qui nous permette d'avoir des boucles à induction magnétique, par exemple dans les salles de réunion, des choses comme ça. Là, on est encore très peu équipé.
C'est quoi ton rôle à la STIB, précisément ?
Mon rôle à la STIB est un rôle transversal qui part, dépend dans quel sens on le prend.
La définition de ta fonction.
La définition de ma fonction, c'est Accessibility Manager. Ça veut dire améliorer l'accessibilité, principalement pour les clients du réseau. Et puis, c'est une fonction aussi très transversale qui vise à ce que je sois tantôt l'avocat de la STIB à l'extérieur et l'aiguillon qui amène l'entreprise à faire mieux, à aller plus loin dans la prise en compte des personnes en situation de handicap, que ce soit nos clients ou que ce soit aussi nos collègues. Donc voilà, c'est un rôle assez transversal, très varié, et qui est passionnant en tout cas.
Donc l'accessibilité, toi tu la définirais comment ? Avec tes mots à toi ?
Avec mes mots à moi, c'est une thématique qui apporte une grande valeur ajoutée à l'entreprise parce qu'elle s'occupe des plus faibles des utilisateurs. Et donc, en s'intéressant au profil des plus faibles des utilisateurs, qui sont contraints et qui nous contraignent, on va créer de la valeur ajoutée pour l'ensemble des autres utilisateurs. Par exemple, quand on aura pris le point des personnes en fauteuil roulant qui sont contraints par la plus petite marche, qui sont contraints par le plus petit trou, eh bien, on aura rendu tout l'espace beaucoup plus confortable pour circuler, pour les personnes qui marchent difficilement, pour ceux qui se déplacent avec des roulettes, on parle des touristes par exemple, ou de sortir d'un marché avec un caddie. Eh bien, voilà, ça s'appelle la valeur ajoutée. Donc, on part d'une problématique pour arriver à une valeur ajoutée. Mon malheur, c'est que cette valeur ajoutée n'est pas facilement chiffrable.
Et pourquoi ?
Eh bien, parce que on parle d'une notion de confort, et la notion de confort, au final, c'est difficile de dire, puisqu'elle est finalement très individualisée.
Ah oui, okay.
C'est difficile de dire que moi, je donne tel résultat, moi je pense que ce niveau de confort-là vaut X ou vaut Y. C'est pas simple, sinon dans le baromètre de satisfaction, le baromètre qu'on fait annuellement, là, on peut le mesurer un peu, mais c'est toujours très subjectif, en fait.
Et on se situe où par rapport à ça, par rapport à ce baromètre ? On est dans le bon ou alors qu'on a encore beaucoup de travail à faire vis-à-vis de nos voyageurs ?
Alors, vis-à-vis de l'accessibilité, on évolue. Hein, on est dans une thématique qui évolue vraiment beaucoup. Il y a quelques années d'ici, on n'interrogeait pas les clients sur des questions d'accessibilité au travers du baromètre. On le fait aujourd'hui. Le souci que je rencontre et qui est un peu global, qui ne concerne pas que le baromètre, c'est d'aller recueillir les témoignages des personnes les plus impactées, des personnes handicapées, parce que en fait, elles sont très très vite contentes du fait qu'avant, ben, il n'y avait rien, comme maintenant il y a un peu, elles sont très vite contentes. Et ça, c'est un peu quelque part gênant pour moi, parce que je voudrais qu'elles soient aussi exigeantes, elles ont les mêmes droits que les autres, et donc j'aimerais bien qu'elles soient aussi exigeantes que les autres, mais on part d'une situation tellement difficile à la base que voilà, je leur dis constamment, plaignez-vous s'il vous plaît, plaignez-vous.
Et quand t'es arrivé, il n'y avait rien du tout? Je ne sais pas depuis combien de temps tu es à la STIB?
Alors moi je suis à la STIB depuis 2009, je suis arrivé en provenance du secteur associatif militant, et il y avait déjà des choses. La STIB a commencé, quand on regarde l'histoire, elle a commencé en 1978 à s'intéresser aux personnes handicapées en créant ce qu'on appelait à l'époque le service minibus. Et puis en 2000, entre 78 et 2000, il ne se passe manifestement pas grand-chose, sinon que le service minibus vit sa vie. Donc en 2000, il y a un premier plan d'accessibilité que j'appelle le plan de base. On s'est dit, tiens, il faudrait faire quelque chose. Et puis, suivant les contrats de gestion, donc on a les contrats de gestion avec la région, en fonction de ces contrats de gestion, les choses évoluent. En 2006, Didier Dumont, qui est encore aujourd'hui mon boss, a pris cette thématique en charge et s'est dit, il faut créer un pôle de compétences, qu'il appelait à l'époque le pôle PMR, un pôle de compétences qui doit être occupé par quelqu'un qui va incarner la démarche d'accessibilité pour l'entreprise et qui sera tour à tour l'avocat et l'aiguillon de l'entreprise et dans l'entreprise. C'est là que moi j'arrive en 2009 et que depuis, ben voilà, il y a en tout cas une personne qui est censée coordonner toute cette thématique pour améliorer la sensibilisation en interne, améliorer la prise en considération, faire valoir les droits des personnes handicapées au travers des contrats de gestion successifs. On voit en 2008 le nouveau plan stratégique d'accessibilité que j'appelle le plan de bonnes intentions. La STIB a là consulté le secteur associatif qui s'est dit chouette, la STIB s'intéresse à nous, on va leur dire tout ce qu'il faut faire. Et donc ce plan rassemblait 42 projets qui allaient de tout à rien, enfin, très, 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 très ambitieux et parfois très, très, très rentrant dans les détails. La lacune majeure dans ce plan, c'est qu'il y avait zéro ressource associée à ça. En 2013, la STIB franchit un pas qui est, à mon sens, très, très, très important. Ce pas, c'est le fait qu'elle inscrit dans le contrat de gestion qu'elle adopte les principes généraux de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées. Et ce moment-là, il tord le coup à une question qu'on me posait régulièrement jusque-là. Et cette question est un peu brutale. C'est, dit Christian, est-ce que tu es sûr qu'il faut s'occuper de ces gens-là? Ouais, c'était chaud. C'était une question qui m'était posée globalement tous les 3 mois, quel que soit le niveau des gens dans l'entreprise. Dans toute la pyramide hiérarchique, on me l'a posée. Et je dis bien dans toute la pyramide, du plus haut, du top de l'entreprise jusqu'au plus bas, mais ça a sacrément évolué, notamment dans le cadre de la préparation plutôt du contrat de gestion actuel, où on a, sur base de ce qu'on avait fait en 2013, adopté les principes généraux. Dans ce même contrat de gestion de l'époque, on dit on va faire un bilan général, un état des lieux, de ce qu'est le réseau aujourd'hui, de ce qu'est notre offre de transport, pour évaluer ce qu'il reste à faire et comment on va le faire. Et à ce moment-là, on a franchi une étape aussi, parce qu'on s'est associé avec on a travaillé en tout cas, on ne s'est pas vraiment associé, on a concerté avec le secteur associatif, et ça nous a permis avec Bruxelles Mobilité d'organiser des colloques de co-construction. On a recueilli l'ensemble des besoins, on a mis tout sur la table, sans filtre, ce qui nous a permis de trier un petit peu. Et avec les différents partenaires, ça s'appelle comme ça, les différentes personnes qui ont voulu participer au colloque, qu'on a voulu aussi les plus ouverts possible, on a pu définir les grandes orientations. Ces grandes orientations nous amènent à un plan stratégique qui est le plus concret, je pense, qu'on ait jamais eu. Ça ne veut pas dire que c'est le plan parfait, mais en tout cas, c'est le plus concret qu'on ait jamais eu, qui nous amène à répartir les actions dans les différents départements de l'entreprise, ce qui est une nouveauté. On n'avait jamais fait ça avant. C'était tenu par le pôle PMR, qui est devenu plus tard le département accessibilité. Aujourd'hui, Accessibility Manager, ça veut dire simplement « je coordonne l'accessibilité grâce aux interventions de directeurs de différents départements ou de ce qu'on appelle les vice-présidents dans l'entreprise, donc des chefs de département. » Donc là, en termes de gouvernance, on a une task force à ce niveau-là, une task force qui est pilotée par le directeur général de Bruxelles Mobilité, où on retrouve les acteurs de Bruxelles Mobilité, les acteurs de la STIB, les acteurs associatifs, ce qui est quand même dingue, on a une gouvernance où on intègre ce qu'on appelle nos stakeholders externes, on les met autour de la table pour pouvoir construire avec eux, pour leur permettre de piloter avec nous. Voilà, donc il y a une notion de transparence qui est plus vraie que jamais. Et puis, dans les différentes structures, Bruxelles Mobilité et STIB, on a chacun un organe de pilotage que nous, à la STIB, et je ne vais parler que de la STIB forcément, nous, à la STIB, on appelle ça un board. Ce board rassemble les porteurs d'action, dont j'en ai parlé, les directeurs ou les vice presidents, qui, ensemble, pilotent en interne les actions de l'entreprise, en termes d'accessibilité ici. Et puis, eux, ne pouvant pas prendre les dossiers eux-mêmes en charge, ils sont là pour piloter, c'est normal, ils s'appuient sur une communauté de référents qui leur répondent, et référents qui créent donc cette communauté que j'ai le plaisir d'animer. Voilà, ça nous permet d'avancer franchement fort et d'avoir aussi non seulement amorcé le tournant, mais on est à la sortie du tournant, et on voit qu'on réaccélère et on est reparti pour mener des projets qui avancent vraiment fort. Et cette nouvelle gouvernance a vraiment changé mon métier, en fait, carrément.
Et quand tu parles de tournant, donc on se dirige vraiment vers la bonne voie, si j'ai bien compris. Il y a des projets. C'est quoi les grands projets de la STIB, les futurs grands projets de la STIB en matière d'accessibilité?
Alors, le grand projet de la STIB en matière d'accessibilité, c'est d'abord de viser l'inclusion, de viser le design universel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit, on prend en considération les besoins des personnes les plus contraintes pour faire valoir leurs droits au déplacement, leurs droits à la participation à la société. C'est de là qu'on part. Et donc, ce que nous visons, c'est clairement que nos clients en situation de handicap, voyagent, comme tout un chacun, en autonomie. Qu'ils n'aient plus besoin de nous pour se déplacer, qu'on ne doive plus leur prendre le bras, qu'ils ne doivent plus réserver un service. Ça, c'est le focus, c'est vers là qu'on va. C'est bien beau de le dire, mais après, concrètement, ça se passe comment? C'est là qu'il faut parfois se remonter les manches. Alors, il y a le système de transport qui doit évoluer. Le système de transport, il est constitué de l'offre, qu'est-ce qu'on veut faire, des arrêts, des véhicules et du personnel. Et aussi de l'information qu'on donne, ce qui est fort en lien avec l'offre. Donc tout ça doit évoluer ensemble pour faire quelque chose qui soit cohérent. Ce mot cohérent, c'est un fondamental de l'accessibilité. Si on n'est pas cohérent, on rate tout, parce que l'accessibilité se construit sur ce qu'on appelle la chaîne de déplacement. La chaîne est constituée de maillons. Si un maillon est cassé, la chaîne est rompue, mais le client, c'est fini pour lui, son trajet, il est mort. Donc, on a tout raté, et c'est là qu'on n'a pas réussi notre ambition d'offrir le meilleur transport pour les Bruxellois. Alors, ça se passe comment derrière les grands projets? C'est quoi? Les grandes idées, c'est réduire les lacunes. Les lacunes en termes de transport public, c'est les espaces entre les quais et les véhicules. Espaces horizontaux ou espaces verticaux, j'ai envie de dire, et espaces verticaux. Si vous êtes contraint par une marche difficile parce que vous traînez les pieds du fait de votre vieillissement, si vous êtes en fauteuil roulant, si vous circulez avec un caddie, si vous circulez avec une poussette d'enfant, tous ces éléments-là font que dès lors qu'il y a un espace entre le quai et le véhicule ou une marche à franchir, vous êtes contraint. Alors, pour les uns, ce sera rédhibitoire. S'il existe un trou, ben vous ne pouvez pas le franchir. Pour les autres, ce sera juste inconfortable. Mais si nous arrivons à résoudre ce problème, le transport sera confortabilisé, on va dire. Ça, c'est le grand point qui concerne essentiellement nos véhicules ferrés, c'est-à-dire le tram et le métro. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Différentes actions. Au tram, on a mené en concertation avec le secteur associatif une réflexion qui a amené un gros changement dans l'entreprise. Cette réflexion visait à installer un élément en caoutchouc sur le nez de quai, donc sur le bord du quai, pour réduire l'espace entre le quai et le véhicule.
C'est ce qu'on appelle les bords fusibles.
On appelle ça les bords fusibles.
Ouais.
Donc bord, bord de quai, fusible, ça veut dire que si un tram arrive un peu trop fort ou qu'il est mal réglé ou que quelque chose se produit, il peut venir au contact de la pièce en caoutchouc sans tout casser, sans casser le quai, sans casser le véhicule. Et si quelque chose doit casser parce qu'il y a un dérèglement trop important, ce sera la pièce en caoutchouc qui va tomber dans les voies et voilà. Donc il n'y aura plus qu'à venir le réparer. Donc c'est prévu pour assurer la sécurité des voyageurs aussi, c'est essentiel. On l'a vu en ayant, au terme de la réflexion de projet et au début du déploiement, on a vu que ça permet à une personne avec un enfant en poussette d'entrer et sortir d'un véhicule. On amène un changement de paradigme en faisant ça. Je viens de vous dire qu'on entre ou on sort du véhicule, alors qu'avant, on montait ou on descendait du véhicule. C'est un vrai changement de paradigme. On peut entrer et sortir. On est en notion de plein pied. C'est génial. C'est vraiment, pour Bruxelles, pour le réseau de tram, c'est une amélioration qui est historique. C'est une évolution qui est vraiment, qui a l'air de rien comme ça, mais qui est vraiment historique. Ça, c'est pour le tram. Et je ne vous parle évidemment pas des anciens trams avec des marches, etc. Ça, c'est un sujet avec lequel, malheureusement, il faudra continuer à vivre parce qu'on ne peut pas remplacer tous les trams d'un coup d'un seul. Je regarde plus devant moi que derrière moi quand je veux faire de l'accessibilité. Certes, on compose avec le passé, mais le mode « on a toujours fait comme ça », c'est mon pire ennemi, évidemment.
Mais ce n'est plus vraiment le cas. Quand on voit, par exemple, le M7, il y a quand même ou le TNG, par exemple, qui va être mis en ligne prochainement, il y a quand même une réflexion liée à l'accessibilité qui je trouve personnellement assez intéressante quand même, quoi. On a pris ça en considération.
L'amélioration des véhicules fait partie de l'amélioration du système de transport. Donc, en ayant parlé des bords fusibles, on vient de parler des arrêts. Et cette technologie, cette technique amenée au tram, l'ambition, c'est de l'étudier pour l'amener au métro aussi, voir ce qu'on peut faire au métro pour aller dans une optique similaire, sinon carrément identique. Mais là, on est en phase d'étude. Je ne peux pas encore expliquer ce qu'on va faire, je n'en sais rien. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui le sait. Les véhicules qui arrivent derrière, avec l'arrivée de M7 en juillet dernier et l'arrivée toute prochaine de TNG, on a aussi des grandes évolutions qui sont le résultat d'un très long travail en amont, aussi en concertation avec les associations. Ce très long travail a donné lieu, par exemple, pour ce qui concerne le M7, un design intérieur, un design de la zone qu'on appelle la zone multifonctionnelle, donc où les personnes en fauteuil peuvent se trouver, les personnes avec des poussettes, etc. Donc on appelle ça comme ça, zone multifonctionnelle. Cette zone a été longuement travaillée par les équipes d'acquisition de véhicules pour amener un design qui intègre les besoins et qui soit beau. On aime bien avoir des beaux véhicules, ça fait partie de ce qu'on veut offrir à nos voyageurs. Il faut que ça doit être chic de se déplacer en transport public. Et là, je pense qu'on a réussi quelque chose. On n'a pas fait un truc pour les personnes handicapées comme on pouvait éventuellement le faire il y a quelques années d'ici. On a intégré les choses. Je parlais d'inclusion. Je pense, enfin, en tout cas moi, je suis très fier du travail qui a été mené par les équipes pour arriver à ça. Et je les en remercie parce que vraiment, c'est évidemment pas moi, hein, c'est un ensemble d'acteurs. À la STIB, dès qu'on touche à une vis, on est 250 personnes concernées. C'est assez marrant. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Mais
c'est vrai.
voilà. Donc ça, des améliorations pour M7. Pour rentrer dans le détail des améliorations qu'on a apportées là, au bas des portes de M7, il y a aussi une pièce qui est également fusible, qu'on appelle bourrelet, un bourrelet en caoutchouc, qui permet de limiter l'espace entre lequel le véhicule. Ça amène le gabarit latéral de M7 à la plus grande largeur qu'on ait dans nos différents types de matériel roulant métro. Eh bien, ça contribue à diminuer la lacune horizontale, ce qui permet dès aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore travaillé sur les quais, d'offrir un niveau supérieur d'accessibilité par rapport à ce qui a existé par le passé. Tout l'enjeu maintenant est double. C'est de voir sur les anciens véhicules, ou en tout cas les véhicules existants, ce qu'on appelle les MX, les rames orange, et les BOA, ce qu'on appelait jusque-là les nouveaux métros, qui viennent d'être... qui viennent de perdre un rang dans le top 3. Ils viennent de passer au top 2.
Oui, bah, ils restent encore modernes, hein, honnêtement.
Ils restent évidemment très, très modernes. Très modernes. Ils sont pas vieux, en fait. Si...
2009, je pense, quelque chose
comme ça. Oui, c'est ça, 2009, ouais. Dans ces eaux-là. Donc, effectivement, ils ne sont pas très, très vieux. Mais leur gabarit latéral est inférieur à M7. Ce qui veut dire que la lacune horizontale est plus importante. Là. Donc, c'est encore un défi, c'est d'harmoniser. Je vous ai parlé de cohérence tout à l'heure. Eh bien, la cohérence de gabarit va être essentielle à l'avenir pour pouvoir offrir un service de transport qui lui aussi sera cohérent. Ça amène aussi d'autres changements. Avec M7, la zone multifonctionnelle se trouve en milieu de train, parce qu'un jour, le train...
C'est une question, ça, effectivement, que j'allais te poser. Mm-hmm. Pourquoi au milieu, alors qu'on est habitué, ou avec les plus vieux et les BOA, avoir ces zones aux extrémités, justement.
Voilà, donc, c'est vrai que c'est aussi un gros changement. Notre 1 MX et M6, dans ces trains-là, les personnes handicapées étaient invitées à monter par la porte avant. Depuis toujours, en gros. Pourquoi ? Parce que, à cette époque, hein, toujours, la STIB souhaitait que le client soit bien vu par le conducteur pour s'assurer que si cette personne handicapée arrive, il faut mettre tous les systèmes en veille maximale pour qu'il puisse rien lui arriver de plus. Hein, c'est un propos difficile à dire, mais c'est la réalité. La prise en considération de l'accessibilité il y a 10 ans d'ici, il y a 15 ans d'ici, était un peu paternaliste.
C'est limite un peu discriminant, comme la manière.
Oui, on peut le voir comme ça. C'était vu comme ça. C'était, on a peur du handicap et c'est aussi des notions qui évoluent. C'est une personne en situation de handicap. C'est une personne avant tout. Alors elle a des besoins spécifiques, mais ce qu'elle a pas comme besoin, c'est qu'on soit plus attentif.
C'est même plus un sujet tabou en fait maintenant. Je pense que les mentalités ont quand même pas mal évolué par rapport à ça.
En tout cas, à la STIB, ça a sacrément évolué. Il reste forcément des personnes, des milieux dans lesquels c'est encore un peu difficile. Mais ça fait aussi partie de mon rôle de faire évoluer ces mentalités-là. Et c'est le résultat aussi d'un travail de concertation, de dire, au final, nous, ce qu'on veut quand on est en situation de handicap, c'est se déplacer. On n'a pas besoin d'être pris en charge, qu'on mette un gros phare sur nous pour dire « Attention, il y a une personne en situation de handicap qui passe ici, dégagez la zone !» Enfin non, sorry quoi, enfin, ça va bien se passer, quoi. Il n'y a pas de souci.
D'où le fait d'avoir mis ces zones-là au milieu du M7, et pour changer les mentalités.
Et du coup, l'intervention du conducteur n'a jamais été nécessaire ou crucial en tout cas. Je ne dis pas que, bien sûr, de temps en temps, un petit coup de main par-ci, par-là est toujours efficace. Mais si on réfléchit, notre train fait 100 mètres de long, 94 je crois, quelque chose comme ça. Si vous montez avec une poussette d'enfant, vous êtes aussi, quelque part, il faut faire attention à vous aussi. Donc nos conducteurs ont l'habitude de faire attention à tout le monde, etc. Pourquoi est-ce que, sous prétexte qu'on est en fauteuil roulant, il faudrait aller monter devant, machin ? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Le deuxième point, c'est que M7 va circuler un jour en mode automatique. Donc, il n'y aura plus de conducteur à bord. Et le troisième point, c'est que par rapport aux lacunes, géométriquement parlant, il est certain que l'endroit où la lacune est la moindre, c'est en milieu de train. Parce qu'on a parfois des courbes sur les arrêts, etc. Donc, tous ces éléments-là font qu'au final, la décision de faire entrer, enfin, d'équiper le train en milieu de voiture pour que les personnes en fauteuil roulant trouvent là l'endroit le plus adapté, elle est venue d'elle-même, en fait. Il n'y a pas eu besoin de grandes études pour ça. Maintenant, le point, c'est que comme nos autres trains ne sont pas équipés pour ça, il va falloir les adapter pour que le client, lui, on ne va pas en faire des experts de nos types de véhicules. Certes, il y a des gens qui connaissent très très bien nos véhicules, mais prenons le cas d'un touriste, il faut qu'il puisse débarquer. Dans le cas d'un Parisien qui débarque, il sort de son Thalys, il arrive gare du Midi, il descend dans la station, il saute dans le métro, il est parti sur son rendez-vous plus loin, et voilà. Donc, la lecture de l'espace doit être améliorée. Là, j'arrive sur un point d'information des voyageurs. Comment est-ce que je fais pour que l'info voyageur soit facile à comprendre pour tout un chacun et qu'on puisse évoluer comme ça?
Ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut voir dans le métro, quand par exemple il y a un M6 qui arrive, donc un BOA, je suis avec mon vélo, la personne qui est habituée à utiliser le BOA depuis des années, il va aller au bout ou au début du quai pour mettre son vélo. S'il va arriver un M7 qui est aménagé différemment, il aura le réflexe de continuer à aller devant et il va vite se rendre compte que l'espace n'est pas adapté pour son vélo alors que justement cet espace est mis au milieu des M7. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va être prévu par rapport à ça? Je sais que tu parlais de modifications au niveau des métros. Est-ce que ça va être mis en place? Comment on met ça en place, en fait?
Alors, tu as dit un truc qui m'interpelle. Tu as dit les gens qui sont habitués. En fait, moi, je m'en occupe peu. Les gens qui sont habitués, c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Ce que je veux, parce que ça fait appel à des besoins d'accessibilité qui sont peu pris en charge. Ce que je veux, c'est que la personne qui ne sait pas comprendre du fait d'un handicap, qui arrive pour la première fois, qui n'a pas accès à la langue, ce que je veux, c'est que ce soit hyper compréhensible. Et donc, les habitués, je les aime bien, j'ai rien contre eux, évidemment. Mais surtout, j'essaye dans ma pratique professionnelle de ne jamais penser les gens savent. J'essaie de jamais penser comme ça. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des choses qui vont amener ce qu'on appelle le primo arrivant, la personne qui est en contact pour la première fois avec notre réseau, à comprendre tout de suite ce qui se passe. Et pour régler le problème d'entrer avec un vélo, par exemple, dans un métro, il y a une signalétique à quai qui doit être mise en place. Signalétique à quai, en milieu de quai, qui va dire, regardez, ici, c'est la zone où il faut vous placer. Quand il y a une personne en fauteuil roulant et un vélo qui doivent entrer dans un même véhicule, ce serait quand même bienvenu que le cycliste qui, par définition, est un peu en bonne santé, cède sa place à la personne en fauteuil roulant. Donc le marquage que nous allons faire, ce sera un marquage d'accessibilité qui sera fait avec le symbole international d'accessibilité, donc la personne assise sur son fauteuil roulant. Avec un marquage, comme on le voit sur d'autres réseaux, qui sera et au sol et en l'air, histoire que quand le quai est vide, ben, au sol, on voit qu'il y a un marquage là. Et puis s'il y a du monde sur le quai, on a un repère en l'air aussi, pour repérer de loin.
Justement, quel est le ressenti des personnes à mobilité réduite par rapport à ce que la STIP met en place sur le réseau, de ton expérience, de tes contacts,
Mon expérience par rapport au ressenti des personnes sur le réseau, donc des personnes en situation de handicap, elle est un peu biaisée. Parce que je suis en contact permanent, quasi quotidien, avec les associations qu'ils représentent. Et l'association avec laquelle nous travaillons le plus, c'est le CAWAP, qui est le collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, qui est un consortium qui rassemble des associations de membres. Et donc, derrière le CAWAP se trouvent ces fameuses associations, et derrière les associations, alors des clients, dont certains sont nos clients, dont beaucoup d'autres ne le sont pas parce qu'ils habitent en Wallonie ou parce qu'ils n'ont pas d'intérêt par rapport au transport public. Les autres contacts que j'ai sont des contacts au travers de notre customer care où des clients émettent des remarques. Alors pour le dire tout net, il y a plus de remarques négatives que de remarques positives, mais on en reçoit aussi des remarques positives avec des gens qui nous signalent que c'est souvent comportemental, hein. C'est le chauffeur ou l'agent ici ou là a adopté un comportement vraiment qui m'a aidé dans ma journée. Je voudrais vraiment qu'il en soit remercié. Et évidemment, ça fait plaisir aux collègues qui ont contribué à faciliter le voyage, simplement parce qu'ils ont fait leur métier correctement. Hein. C'est ça. On arrive pour féliciter un collègue en disant « Tu sais, il y a quelqu'un qui dit que tu as fait du bon boulot. » Le collègue, il répond « Bah oui, enfin, j'ai fait mon boulot. » quoi. Mais merci. Soit ça fait quand même toujours plaisir. Derrière, il y a aussi les clients qui se plaignent. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup que les clients se plaignent. Pourquoi ? Parce que s'ils se plaignent, c'est qu'ils ont raison. Hein ? Ils ont raison parce que tantôt la rampe du bus n'aura pas fonctionné. Et puis on va pouvoir, grâce à la plainte, aller analyser derrière qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la rampe qui est en défaut technique ? Est-ce que c'est la personne qui était en charge de la conduite du bus ce jour-là qui ne sait pas comment ça fonctionne ? Quel est le problème ? Ça nous permet d'analyser finement ce qui se passe pour pouvoir améliorer les choses et que ça ne se produise plus. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est aller à la rencontre des usagers. Donc certaines associations, certaines commissions communales de personnes handicapées invitent parfois la STIB et c'est forcément, puisque c'est mon sujet, c'est moi qui y vais. Ça, c'est intéressant, d'aller rencontrer les groupes comme ça. Quand on arrive, qu'on représente la STIB devant un parterre de personnes en situation de handicap, on incarne toute leur douleur. Ils ont tous eu une expérience, minimum une, où ça n'a pas marché. Où ils sont revenus complètement frustrés, fâchés, tristes, voilà, tous, ils ont eu ça.
Et t'as un exemple en tête ?
Oh oui, il y en a plein.
Qui t'a marqué plus qu'un autre ?
Il y a plein d'exemples. Je suis une personne qui a... Je ne vais pas donner de nom, évidemment. Je suis une personne qui est jeune, étudiant, qui doit aller en cours, qui est en fauteuil roulant, qui veut prendre le bus et qui va se retrouver sur un bus où systématiquement la rampe ne fonctionne pas. C'est une expérience qu'on a eue il y a quelques années, là on est en 2014. C'est hyper frustrant évidemment. Mmh. J'ai déjà eu tout un parcours du combattant pour arriver à me faire inscrire dans une école qui me soit accessible parce que c'est en fauteuil, voilà. Donc il y a déjà eu tout un parcours incroyable pour arriver à faire ce que je veux, des études de TIC ou de TCHAC. J'ai trouvé l'école dans laquelle je vais pouvoir suivre mon cursus. J'ai trouvé un habitat parce que forcément, cette école, elle est loin de chez moi. Donc, j'ai dû trouver un habitat qui me permet de vivre là aussi. Et puis, le lien entre ces deux lieux de vie, mon habitat, mon école, c'est la STIB et la STIB ne répond pas à l'attente. Wow, c'est chaud ça quand même. Hein. Mm-hmm. Donc là, c'est le moment où parfois les larmes montent aux yeux.
Ouais.
Voilà. Ça m'arrive parfois. Parce que je vis. C'est la première fois que ça m'arrive sur ce sujet-là. Si le podcast passe.
Il faut une première.
Si le podcast passe avec ça, la personne concernée va se dire ah oui, quand même. Parce qu'au final, ça a été très dur avec cette personne. Forcément, comme je disais, j'incarne les problèmes que la STIB pose. Et donc, on s'est rencontrés avec la personne en question. Et ça a été très, très dur, très violent. Ouais. Elle avait raison. Je comprends ça très, très bien. C'est pas de ma faute, personnellement, mais c'est ma responsabilité que de faire évoluer les choses. Et donc là, on est en 2014.
Ouais.
Les rampes ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui, en 2021, fin 2021, on a un taux de disponibilité des rampes qui a été colossalement amélioré.
J'allais poser la question, justement.
Voilà, et donc c'est ça qui est important, c'est que de la rencontre qui se passe avec un groupe d'acteurs qui nous amène des choses, je ressors de là toujours nourri de leurs expériences pour comprendre ce qui ne va pas. C'est ça que je cherche pour améliorer les choses. Ah, après, je reviens aussi de ces rencontres avec ce qui va bien, parce que ça va me servir en interne pour dire aux collègues, tu sais, les efforts que tu as menés dans ton département, ben ça paye, et j'avais autour de la table X, Y, Z histoires où on me raconte que ça s'est bien passé. Ça aussi, c'est fondamental, parce que ça va permettre de motiver les troupes en interne pour continuer à aller de l'avant. Mais je disais que c'était caricatural, ces rencontres avec les groupes, parce que ça commence toujours par ce que j'appelle le moment Burke. Et je leur laisse toujours 5 minutes où je dis, voilà, moi je suis venu sans armes, mais je sais que vous avez des choses difficiles à me balancer, alors commencez par ça. Allez-y, tout droit, balancez. Donc je leur laisse 5 minutes pour faire ça. Et puis après, parce que ça part un peu dans tous les sens, et oui, et moi, et je... Ouais, voilà, ça part un peu vraiment dans tous les sens. Et puis derrière, là on prend un quart d'heure, ou le temps qu'il faut en tout cas, pour faire un tour de table. Et là, j'impose à chacun de laisser l'autre s'exprimer. Et cet autre doit me dire un truc qui ne va pas, et en face, un truc qui va bien. Et alors là, ça devient intéressant, parce que chacun écoute, et c'est fondamental, c'est écouter l'autre, quoi. C'est fondamental de dire, bah, tiens, un tel a vécu cette expérience qui, pour nous, peut être relativement insignifiante, mais qui, pour cette personne, était vraiment traumatisante. Voilà. Et puis, lui faire prendre conscience à cette même personne que ce qu'elle a vécu, peut-être, comme dans l'exemple que je viens de citer en 2014, n'est plus vrai aujourd'hui. Ça, c'est compliqué aussi dans le métier, de faire prendre conscience aux gens que la STIB évolue, et qu'elle évolue dans le bon sens, je crois. Et du coup, en faisant comme ça, en leur demandant de dire ce qui va bien aussi, ça les met en condition d'écoute de la STIB en face, parce qu'elle a des choses à raconter, cette STIB. En disant, le message général que je porte, c'est tout n'est pas parfait, on vient de loin, et on a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est évident qu'on a beaucoup de chemin à faire, parce que les prises en considération de l'accessibilité évoluent. Il y a 10 ans d'ici, quand on parlait de PMR, on voyait une personne en fauteuil, une personne aveugle, point à la ligne. Personne à mobilité réduite, c'est en fonction de son âge, en fonction de son handicap, en fonction de la situation. Je disais tout à l'heure, un voyageur avec une valise à roulettes qu'il traîne derrière lui, c'est une personne à mobilité réduite. Elle l'est de façon très limitée dans le temps, mais elle l'est. Donc voilà, demain on va parler, c'est un sujet qui commence à arriver, des personnes en situation irrégulière sur le territoire qui ont des difficultés d'accéder au digital, au ticket digital, etc. parce que ça impose d'avoir une carte bancaire, et comme elles sont en situation irrégulière, elles n'ont pas la carte bancaire. Enfin, bref, voilà. Donc l'accessibilité évolue là-dessus. elle devrait évoluer aussi. Et là, je suis très, très étonné qu'il y ait si peu de prise en considération en Belgique. Le vieillissement de la population est une réalité et je ne vois aucune tendance de prise en charge de ça. Or, voilà, vieillissement de la population, on a tous dans notre environnement des gens qui vieillissent, dont l'acuité auditive diminue, dont l'acuité visuelle diminue, dont la capacité à se mouvoir diminue. Tout devient un peu compliqué, il faut pouvoir s'asseoir plus régulièrement. Voilà, moi j'entends pas grand monde pour dire attention, le vieillissement est une réalité. Et du coup, ça amène aussi une difficulté dans mon métier. Il faudrait deux types de transports publics. Le rapide, pour monsieur et madame lambda qui doivent courir d'un endroit à l'autre et dans ces villes exubérantes, etc. Et puis le lent, pour ceux, enfin l'ode à la lenteur, pour ceux qui en fait ont choisi cette ode à la lenteur, ou pour ceux qui sont contraints à ça. Quand on va plus dans les quartiers d'habitat, qu'on sort de l'hypercentre-ville, on se rend compte que quand on a 70 ou 80 ans, on monte plus difficilement dans un véhicule, il faut le temps de se déplacer à bord du véhicule, il faut s'asseoir, se relever, et simplement de passer de la position assise à la position debout est pour certaines personnes âgées contraignant. Et du coup, entre le moment où le véhicule s'arrête, qu'elle se lève, qu'on referme les portes du véhicule pour repartir, mais c'est pas rare qu'on reparte avec le client à bord alors qu'il aurait voulu descendre, ce qui génère tout un tas de plaintes, etc. Alors on a des clients qui voudraient qu'on aille le plus vite possible et puis d'autres qui voudraient qu'on prenne soin d'eux. Donc c'est un très très difficile équilibre.
C'est souvent une question que je pose à mes invités par rapport à leur domaine de prédilection. Donc ici, l'accessibilité, la STIB, elle se débrouille comment par rapport à ce qui se fait ailleurs en Europe ou...
Je regarde très fort ici, proche de nous, parce que comme on vient de loin, que certains sont plus en avance que nous par rapport du fait de leur cadre législatif, par exemple. Je pense à la France spécialement. Je suis un fainéant, moi, j'ai été voir beaucoup en France, ça me permet de ne pas devoir pratiquer le néerlandais, l'anglais ou que sais-je. Et j'ai la chance.
Genre à Paris, c'est bien, parce que tu veux prendre le métro à Paris, c'est quand même compliqué.
Voilà, effectivement, la France a un cadre législatif qui est. Enfin, c'est culturel, hein, il légifère un peu pour tout. leur cadre législatif a très fort évolué en 2005 avec l'apparition d'une loi qui a imposé la mise en accessibilité d'un tas de choses, sauf du métro parisien. Pourquoi ? Parce que le métro parisien, il a plus de 100 ans, il a été conçu inaccessible, il y a des escaliers partout, et le mettre en accessibilité serait juste, c'est juste d'une complexité sans nom. En revanche, tout ce qui est construit ou à construire, etc., doit devenir accessible.
D'accord.
Donc, quand on prend la ligne 14 à Paris, la ligne est accessible. Quand on prend le tram, il est accessible. Voilà. Les collègues de la RATP nous ont inspirés pour beaucoup de choses. D'abord parce qu'ils ont là-bas ce qu'on appelle la mission accessibilité, qui est un peu le pendant du département accessibilité. La mission accessibilité, qui est constituée d'une grosse équipe. On prend des exemples là, on prend aussi des exemples un peu partout en France. Maintenant, quand on prend les réseaux de tramway français, ils sont repartis de zéro, si je ne dis pas de bêtises, à partir des années 80. Et le réseau qui nous est cité en exemple, c'est le réseau de Grenoblois, parce que c'est eux qui ont commencé à faire de l'accessibilité. Et aussi, par rapport à l'histoire, c'est les étudiants de l'Université de Grenoble qui sont arrivés en fauteuil et qui ont milité en disant « Bon, ben voilà, nous, on est en fauteuil, là, on veut pouvoir prendre les transports publics. » Et du coup, l'autorité organisatrice de transport local a pris fait et cause et a évolué. Nous a servi d'exemple et on est allé les voir plus d'une fois. Ceci dit, l'inspiration peut se trouver aussi à Bruxelles. À Bruxelles, dans les années 90, vers 90-91, on était les premiers à mettre un marquage podotactile dans les stations à destination des publics aveugles. Donc, chacun à son tour est un peu précurseur et est forcément observé par l'autre. Et on le fait encore aujourd'hui. Par exemple, si je reviens aux personnes déficientes visuelles, on a un système de marquage podotactile sur le réseau qui permet aux personnes aveugles de se déplacer sur un itinéraire, pour autant qu'elle l'ait préalablement reconnu. Donc, une personne aveugle sur notre réseau ne peut pas aller dans une station qu'elle ne connaît pas à l'avance. Ce n'est pas possible pour elle. Et quand je dis que notre ambition, c'est l'autonomie, ben, il y a un focus à mettre en place pour ce type de personnes spécifiquement, et focus qui nous, qu'on peut mettre en place aujourd'hui grâce au fait que beaucoup de gens disposent d'un smartphone, et particulièrement dans les publics déficients visuels qui se déplacent. On a aussi des personnes âgées qui se déplacent nettement moins, mais ceux qui se déplacent, on sait, parce qu'on a fait les études marketing en conséquence, qu'elles sont très très digitales. Et ce fait-là nous permet de chercher une solution qui, en complément des éléments podotactiles, va leur permettre d'être autonomes à la manière d'un GPS. On a un espoir qui nous... qui pourrait être franchement réaliste, d'amener au travers d'une solution pour les personnes handicapées quelque chose que tout un chacun va pouvoir utiliser. Quand on descend dans une station de métro avec un planificateur d'itinéraire, on est localisé sur notre smartphone avec un GPS. Et quand on descend dans la station, on perd le signal GPS, évidemment. Eh bien, la solution qu'on cherche ici, une solution qui nous permettrait demain de récupérer l'info qui a été conçue spécialement pour les personnes aveugles pour la mettre à disposition de tout un chacun. Et c'est là qu'on gagne. On a pris en considération le besoin de la personne la plus contrainte et on la met à disposition de l'ensemble. Si avec les associations, si avec éventuellement d'autres opérateurs de transport public, on arrive à trouver une solution qui nous permet d'amener quelque chose comme ça, ah ben là, on aura fait un sacré pas en avant de nouveau.
Donc en fait, on parle d'accessibilité sur le réseau, donc les ascenseurs commencent doucement à fleurir à gauche, à droite, dans pas mal de stations. Mm-hmm. Donc ça, c'est une excellente chose. Mais il y a aussi l'accessibilité en interne à la STIB, qui fait certainement aussi partie de tes compétences. Est-ce que tu peux nous en parler également ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour accueillir éventuellement des collègues qui ont des problèmes de mobilité ou...
Mais oui, évidemment. Donc dans mon rôle figure plus le fait de... C'est la première raison d'être de l'Accessibility Manager, c'est d'améliorer le réseau, l'accessibilité du réseau pour que les voyageurs puissent se déplacer. Et quelque part, ça va permettre, une fois qu'on aura fini, c'est pas demain qu'on aura fini, mais déjà toutes les évolutions qu'on a engrangées permettent aux gens de mieux circuler. Et... d'atteindre l'emploi. Et en parallèle à ça, des programmes comme les programmes en e-streaming portés par le gouvernement, des choses comme ça, des programmes de diversité portés par les entreprises, permettent d'amener les personnes en situation de handicap à faire valoir leurs compétences au sein des entreprises. Et donc là, forcément, la STIB, elle a aussi un programme de diversité qui est assez énorme au travers de l'emploi de personnes d'origine différente, au travers de la mixité, hommes-femmes, des régimes linguistiques, un peu toutes sortes, et puis aussi forcément de contraintes liées au handicap. Alors c'est une thématique qui est relativement récente aussi dans l'entreprise, ça fait à peu près 5 ans qu'on est engagé dans cette voie, qui est aussi une voie quelque part militante pour l'entreprise. La première question que tu posais tout à l'heure, c'était est-ce que le bâtiment ici est accessible aux personnes en fauteuil roulant ? Ben oui, partiellement, et il y a sans doute des améliorations à faire. Les améliorations, on les fait, on aménage le poste de travail, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser non pas au groupe, mais à l'individu, pour savoir quelles sont les adaptations qu'on va devoir mettre en place pour que la personne puisse s'épanouir dans son emploi et apporter à l'entreprise les compétences qu'elle a acquise et qu'elle pourrait encore développer. Il y a plusieurs passages obligés. D'abord, il y a le captage des CV. Comment est-ce qu'on peut arriver à capter un CV de personnes en situation de handicap ? Parce que régulièrement, elles n'osent pas le dire. Parce que la discrimination, c'est un truc qu'elles vivent au quotidien. Elles ont essayé une fois, 10 fois, 100 fois. en ont ras-le-bol et donc elles n'osent pas le dire. Du coup, parfois, elles arrêtent de chercher simplement. Mais quand on a, dans une entreprise comme la nôtre, des politiques de responsabilité sociétale d'entreprise, des plans de diversité, etc., c'est fondamental de mettre en place des choses pour les aider aussi à venir vers l'emploi. Sauf qu'on n'est pas spécialiste. Et là aussi, le partenariat est important avec des spécialistes. Pour le coup, on travaille avec une ASBL qui s'appelle Diversicom, dont la mission est de mettre à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et cette ASBL nous présente, comme à plein d'autres sociétés, nous présente des profils en disant, ben voilà, nous accompagnons X personnes, et parmi ces personnes figurent des chefs de projet, enfin, y a un peu tous les profils, chefs de projet, mais juristes, architectes, enfin...
très varié, quoi.
Enfin, c'est l'emploi, quoi, donc voilà. Et donc, nous autres, on sélectionne en fonction de... Avec une collègue particulièrement, la responsable de la diversité, on analyse ces listes et qu'on compare les offres d'emploi proposées par l'entreprise avec les CV qu'on a en face. Et puis, on essaye de faire matcher des choses. Les profils qu'on recherche sur ce sujet-là sont plutôt des profils relativement high level. Pourquoi ? Parce que la STIB a une particularité, c'est de prendre en considération les maladies invalidantes, etc., que subit son personnel. Être un petit peu dans la caricature, mais quand vous avez conduit un véhicule pendant 30 ans, ça arrive que vous ayez des douleurs dorsales qui ne vous permettent plus d'assurer la conduite. Et du coup, nous nous efforçons, nous trouvons des solutions pour maintenir ces personnes dans l'emploi à la STIB. Et on a tout un système de postes de reclassement. La première personne qu'on ait embauchée pour ses compétences et qui soit porteuse de handicap est une personne qui est autiste Asperger. Son autisme l'amène à être absolument incollable sur l'information voyageur. Quand l'ASBL Diversicom nous l'a présenté, elle nous dit, voilà, on a ici une personne, qui de surcroît est une personne relativement jeune, dont les compétences sont focalisées sur l'information voyageur du réseau STIB. Pour le dire autrement, elle ne sait faire que ça, mais elle le fait de façon absolument fabuleuse. Alors là, quand j'ai été appelé quand on m'a présenté ce profil, j'ai dit, on doit tout mettre en œuvre pour arriver à l'intégrer. Peut-être qu'on va devoir s'arrêter quelque part parce qu'il y aura quelque chose qui ne sera pas possible, mais on doit en tout cas faire tous les efforts utiles et nécessaires pour pouvoir dire qu'on les a faits. Eh bien, ça a pris du temps parce qu'il a fallu mettre en place des contrats d'apprentissage professionnel successifs pour s'assurer que la personne soit en capacité de s'intégrer dans la maison. Ben voilà, en janvier 2021, elle a signé son CDI, elle est là. Et tout le monde s'en réjouit, elle la première. Et je pense qu'on a réussi quelque chose de complément. Enfin, on a réussi tout. On a réussi à recevoir en interne des compétences qui sont essentielles pour l'entreprise. On a réussi à donner un avenir professionnel à quelqu'un qui ne savait faire que ça. On a réussi à mettre à l'emploi une personne jeune qui dépendait des subsides de l'État. Voilà, enfin, je ne vois pas ce qu'on a raté là. Et en plus, et ça, ça ne se voit pas très fort, mais souvent, et c'est le cas ici, l'arrivée d'une personne en situation de handicap dans les équipes change la dynamique de l'équipe très positivement. Une aventure humaine qui est absolument fabuleuse et qu'on voit dans d'autres exemples aussi.
Parmi tout ce que tu m'as expliqué, il y a un projet où il y a quelque chose dont tu es extrêmement fier, toi, à titre personnel, ou au sein de ton équipe, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort réellement dans tout ce que vous mettez en place au quotidien ?
Ma fierté a commencé au moment où j'ai envoyé mon CV à la STIB, parce que je viens du secteur militant pour le droit des personnes handicapées, et la STIB m'a montré un job description où elle disait « on est conscient qu'il y a un besoin d'accessibilité, on ne sait pas le faire, on a besoin de quelqu'un qui pourrait porter le truc ». Et là, je me suis dit « génial, quelle bonne boîte quoi !» Et du coup, j'ai pas hésité longtemps à envoyer mon CV, et depuis, ben, c'est aussi une fierté que de dire, voilà, on continue à avancer. Au-delà de ça, des fiertés, il y en a plein. Fierté de voir les collègues qui s'investissent parfois dans des petites actions qui ne sont pas sur le devant de la scène, mais alors vraiment pas. Et ça, c'est vraiment chouette de se dire, ben voilà, le papa de cet enfant en fauteuil qui est venu me confier son histoire, qui dit, ne dis rien, hein, mais voilà, moi, j'ai un enfant en fauteuil, donc je suis un allié, hein, tu me demandes ce que tu veux. Ou ce grand-père qui a une gamine, une petite fille autiste, qui vient me trouver aussi, qui me raconte son histoire. Beaucoup de collègues me racontent leurs histoires comme ça. C'était pas précisé, ça, dans le job description, pouvoir absorber les histoires individuelles. Et donc, quand on est insensible comme moi, c'est parfois un peu lourd à porter. Mais c'est merveilleux aussi de pouvoir porter ça. Donc ça, c'est pour la fierté collective. Et puis, ma fierté à moi, c'est d'avoir porté la réforme du service minibus à l'époque et de l'avoir amené à taxibus. Pourquoi cette fierté? C'est parce qu'à l'époque, on transportait 40 000 personnes par an en moyenne, hein, et aujourd'hui, on a dépassé les 150 000. Ça veut dire quelque chose.
Ouais,
ça veut dire que les personnes, aujourd'hui, enfin qu'on a la STIB a réussi à les faire sortir de chez elles, et là, on fait notre métier, on transporte les gens.
Taxibus, toutes les infos se trouvent toujours sur taxibus.be, c'est ça?
Ah oui, donc on a sur le site internet une page accessibilité, ouais, où on alimente au fur et à mesure du temps et qui permet aux clients de savoir ce qu'on améliore. Et sur cette page, il y a un guide, le guide du voyageur en situation de handicap, qui dit les choses. On a choisi de ne pas faire un leaflet de promotion, mais un leaflet d'information. Et donc, on dit les choses. Si un endroit ou si une pratique est à éviter, on le dit dans le document, faites attention à ceci. Dans un escalator, ayez toujours la main sur la rampe, parce qu'un escalator peut s'arrêter d'un coup d'un seul. Si ça le fait, vous êtes en bas et ça fait mal tout de suite.
Bien. Ben, merci, Christian, en tout cas, pour ton partage d'expérience. Très intéressant, en tout cas.
Oui, j'adore partager. Je ferai ça encore volontiers, si tu veux, encore un épisode sur autre chose dans l'avenir. Voilà.
Rendez-vous est pris. Donc. Merci Christian.
À bientôt.
Salut.
Notre route s'arrête ici, mais nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode pour une nouvelle histoire. Vous avez écouté En route, le podcast de la STIB. Vous pouvez retrouver ce podcast sur vos applications de podcast préférées. N'hésitez d'ailleurs pas à nous laisser un commentaire et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela permettra à En route d'être mieux référencé. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle histoire liée à la STIB.